Je me trouve avec Béatrice de Chancel Bardelot, ainsi qu'avec Maude Page. L'une est conservatrice du musée de Cluny.
Au musée de Cluny,
et non pas du. Nuance importante. Et Maude Page, vous êtes responsable des collections ici à la Art Gallery of New South Wales.
Oui, et directrice.
Vous êtes toutes les deux réunies ici aujourd'hui en vertu de la venue exceptionnelle de la Dame à la Licorne. Cette tapisserie, ou plutôt devrais-je dire cette série de 6 tapisseries splendides, rares et précieuses, qui donc a fait le voyage du musée de Cluny jusqu'ici à la Art Gallery of New South Wales. Béatrice, je m'adresse à vous en premier lieu. À partir du 10 février, beaucoup d'Australiens vont découvrir pour la première fois cette tapisserie. Certains n'en ont peut-être probablement jamais entendu parler, qui sait. Comment la présenteriez-vous à un public australien, cette tapisserie qu'on appelle parfois, je crois, la Mona Lisa du Moyen-Âge?
C'est une tapisserie qui appartient à ce qu'on appelle les mille fleurs. Donc, puisqu'on a un fond abstrait, ici rouge, donc assez éclatant, assez frappant, qui est parsemé de plantes fleuries. Donc un type de tapisserie assez fréquent à la fin du Moyen-Âge. Mais parmi les mille fleurs, elle est très exceptionnelle parce qu'on a une série avec dans chacune des tapisseries la dame accompagnée souvent d'une jeune fille et encadrée par le lion et la licorne qui porte des armoiries. Donc on a un ensemble un peu énigmatique, puisque 5 des tapisseries évoquent les 5 sens. Dans la présentation, on a l'odorat en premier, le toucher, le goût, l'ouïe et la vue. Et puis on a une 6e tapisserie qui est la seule sur laquelle il y a une inscription « À mon seul désir » ou « Mon seul désir » si on considère que les 2 lettres derrière les cordages sont distinctes et sont peut-être des initiales. Et donc cette 6e tapisserie représente la dame prenant ou remettant des joyaux dans un coffret. Et c'est la plus mystérieuse de cet ensemble. Déjà, on ne sait pas si elle prend ou si elle s'en défait. Et peut-être que cela peut évoquer soit un présent au moment d'un mariage, avec l'ambiguïté sur le mot « désir » aussi, ou alors on a aussi parfois dit que c'était le renoncement au plaisir terrestre. Et aujourd'hui, au musée de Cluny, nous pensons que c'est plutôt une évocation d'un 6e sens, qui serait le sens du cœur, qui accorde de l'importance à des choses plus subtiles que les 5 sens.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui où cette tapisserie a été tissée et quand, avec un peu plus de précision ?
Alors, on n'a pas de documents, puisque pour cette période, on a plus facilement de la documentation des archives quand ce sont des commandes de communautés religieuses. On a quelques tentures qui ont été tissées pour des cathédrales, donc on a les dates. Ici, on n'a pas la date. On la date plus par le style des figures, donc qu'on relie à un artiste actif à Paris à la fin du Moyen-Âge, qu'on appelle Jean d'Ypres, alors d'une famille originaire des Pays-Bas, enfin de Pays-Bas du Sud. Le tissage, on ne sait pas exactement où elle a pu être tissée. Donc avec Elisabeth, nous, on serait assez en faveur d'un tissage à Paris même. Mais on n'en sait rien, et l'hypothèse qui a été le plus souvent avancée était un tissage soit dans le nord de la France, l'île ou Arras, ou ce qu'on appelle maintenant Southern Netherlands, le Pays-Bas du Sud, donc peut-être dans l'actuelle Belgique. Alors autrefois, il y avait un côté nationaliste, évidemment, au 19e et début 20e, il fallait absolument qu'elle ait été tissée. Alors on a beaucoup dit à cette époque, enfin on a dit un petit peu plutôt, la vallée de la Loire. Ce qui est une erreur, c'est simplement parce qu'elle a été retrouvée au 19e siècle dans le centre de la France. Donc on s'est dit, bon, bah, du centre de la France, Château de la Loire, c'est pas très loin.
Mais elle a été retrouvée en Creuse,
c'est ça ? En Creuse, oui, à Boussac. Donc c'est toujours une petite ville qui, à l'époque, était une sous-préfecture. Et elle était dans le château, donc partagée entre Le château était partagé entre la mairie et la sous-préfecture et les tapisseries étaient dans plusieurs pièces du château.
Je crois que le musée de Cligny l'a acquise en 1882. Depuis cette date, combien de fois cet ensemble de tapisseries est-elle sortie de l'enceinte du musée ?
Alors, elle a voyagé pour raison de sécurité au moment de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont été sorties de Paris et mises à l'abri. Et en particulier, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été mise à l'abri dans des châteaux de la Loire et en dernier, dans le château de Chambord. Ensuite, elle a été réinstallée au musée de Cluny en 1946. Et au moment d'une grande exposition chef-d'œuvre de la tapisserie française en 1973-74, elle a voyagé à New York. Et puis en 2012, le musée de Cluny a complètement rénové la salle dans laquelle elle était présentée. Et à ce moment-là, plutôt que de la mettre en réserve pendant le temps des travaux, le musée avait pris la décision de la prêter au Japon. Donc elle a fait deux étapes à Tokyo et Osaka. Et le personnel du musée l'a accompagnée à ce moment-là. Et actuellement, on est à nouveau dans un contexte de travaux de rénovation, puisque le musée va connaître sa plus importante campagne de travaux depuis le 19e siècle. Le musée va être amené à fermer à deux ou trois reprises dans les prochaines années. Et au moment de la première fermeture, donc, qui va arriver là dans quelques semaines au 1er mars, la direction du musée a souhaité à nouveau exposer la tapisserie hors de France.
Dans quelles conditions a voyagé la dame à la licorne Béatrice ?
Actuellement, il y a quand même beaucoup de grandes expositions internationales. Donc, il y a des entreprises qui travaillent avec les musées, éventuellement avec les galeries, et qui sont très, très professionnelles et qui ont l'habitude du transport d'œuvres d'art, de les accompagner dans les grands vols internationaux, et voilà. Donc on fait ça avec des caisses, enfin on prend toutes sortes de précautions d'emballage, évidemment, pour des œuvres de matériaux très fragiles, d'acclimatation. C'est vrai que là, en plus, c'est des œuvres de très grande dimension, donc c'est difficile de les... Ça exige des négociations aussi avec les compagnies aériennes, mais malgré tout, ça se fait, quoi.
Et
je pense.
Là encore, vous avez accompagné, vous n'êtes pas la seule membre du musée à avoir fait le voyage. Cette tapisserie, à chaque fois, c'est le même processus, vous venez accompagner votre bébé.
Donc il y a des convoyeurs, donc, comme là il y a 6 pièces, chaque pièce a voyagé dans un avion séparé avec à chaque fois un convoyeur qui a eu comme ça la joie de découvrir l'Australie. Parce que je crois que, sauf Marie-France Cocheteux, la secrétaire générale du musée, qui était déjà venue en Australie, pour les autres, je crois que c'était une découverte.
Ça vous plaît ?
Oui, beaucoup.
Alors Maud, comment est née cette idée de faire venir la tapisserie à Sydney ? Et comment ça s'est passé ? Parce qu'on imagine toujours que pour faire venir encore une fois une telle œuvre, c'est des négociations qui peuvent éventuellement durer longtemps.
Absolument. Normalement, des négociations pour une œuvre si magnifique comme ça et si précieuse, ça aurait pu prendre des années et des années, mais on a été extrêmement chanceux. Et nous avions croisé Marie-France, qui est ici avec nous, l'année dernière, au début de l'année. Elle est venue ici pour une conférence des exhibition managers du monde entier. Et en discussion avec elle et aussi avec Philippe Platel, notre fantastique attaché culturel, nous avons commencé une discussion que peut-être les tapisseries pourraient venir à Sydney puisque le musée Cluny était en rénovation et on était vraiment très très chanceux que Marie-France a pu voir notre musée, a dû beaucoup aimer notre musée et voir, je crois qu'aussi quand on emprunte quelque chose d'aussi précieux pour les musées, ils ont besoin de vraiment voir comment elles seraient reçues, comment est-ce qu'on les installerait, la réception, comment le musée est en général. Et je pense qu'à travers de tout ça et les discussions, après nous avons parlé beaucoup avec Elisabeth, la directrice, et avec tout ça, ça s'est passé très vite en fait pour une exposition qui est, comme je dis, aussi précieuse.
Alors, ça doit être extrêmement excitant, la perspective de montrer et d'exposer cette œuvre à un public qui peut-être va la découvrir pour la première fois, oui. En tout cas pour sa majorité. Comment on expose aujourd'hui la Dame à la Licorne à des milliers de kilomètres de l'Europe? Comment est-ce qu'on s'adresse aussi à un public peut-être jeune également? Voilà, comment avez-vous eu envie de l'exposer, cette Dame à la Licorne?
Je crois que pour nous, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes une galerie d'art. Alors, on n'est pas un musée des sciences comme le Powerhouse. Alors, c'était vraiment important que nous, on les installe comme des œuvres d'art. Et pour nous, c'est comme ça qu'on les a reçues. Alors, on a fait pareil que si c'était six incroyables peintures que nous avions reçues. Alors, pour nous, c'est de regarder leur côté esthétique est très, très important. Et comme vous voyez, elles sont tellement magnifiques. Alors, c'est de pouvoir montrer ça le mieux qu'on peut. Comme vous voyez, il y a un sol qui est presque, on dirait presque de l'eau dessous eux. On a une scénographie qui est assez dramatique.
Oui, c'est pour ça, elle. Pour expliquer aux auditeurs, oui, on est comme voilà. Dans un écrin noir, ou en tout cas assez sombre, qui révèle les couleurs oui. Des tapisseries qui sont en fait exposées tout autour de nous de manière circulaire.
Oui, voilà, c'est comme, alors elles sont comme des bijoux. Alors pour nous, c'est de vraiment montrer, bien sûr, leurs histoires. Comme disait Béatrice, c'est tellement une histoire incroyable qu'on découvre encore plein de choses. Alors c'est de pouvoir montrer un peu cette histoire, mais aussi pour nous, comme on est une galerie d'art, c'est de aussi laisser les gens avoir la possibilité de créer leur propre narrative avec elle. Et c'est un narratif tellement, tellement magnifique de
poétique.
Voir une femme comme ça, entourée d'animaux si fantastiques, mais aussi comme des chiens, des lapins, des oiseaux, et aussi de savoir qu'elles sont de 1500, c'est quand même incroyable. Et pour l'Australie, je pense que c'est... on a une culture ancienne, bien sûr, avec l'art aborigène, avec la culture aborigène, mais en tant que des objets même, on est obligé de voyager ailleurs. Alors quand on a des exemples aussi magnifiques comme ça, c'est vraiment fantastique.
Est-ce que je crois savoir aussi qu'il va y avoir un programme peut-être d'activité autour aussi de cette Dame à la Licorne?
Oui, c'est ça. Nous avons un programme assez développé avec plein de gens qui ont voulu répondre aux tapisseries. Ça a été assez incroyable quand on a dit qu'on allait les avoir. Il y a plein de gens de notre communauté qui ont voulu créer de la musique, créer des poèmes. Alors nous avons toute une série de gens qui viennent du Red Room, des poètes qui vont venir faire de la poésie avec nous. Et aussi, on a tout un programme de musique qui l'accompagne aussi.
Donc, ce qui veut bien dire que cette Dame à la Licorne, elle inspire encore aujourd'hui des artistes contemporains, finalement.
Absolument, absolument. C'est ça ce qui est incroyable. Et même notre conservatrice Jackie Dunn, d'ici de la galerie, elle a créé autour des tapisseries un bestiary. Je ne sais pas comment on dit en français.
Un bestiaire.
En fait, c'est un nom français. Et ça aussi, c'est de s'inspirer des objets de notre collection qui peuvent avoir un petit clin d'œil avec ces tapisseries. Alors, sont juste au côté, c'est très, très subtil, mais c'est de montrer que dès qu'on les a vus, ça nous a fait penser à tellement d'autres choses dans notre collection même.
Merci beaucoup, Maud Page, et merci Béatrice de Chancel Bardelot.
Merci.